Vous écoutez, on lit pour vous.
Seconde série de textes dans la série Enquête de solutions du journal La Presse. Onglet, désenchantement numérique. Titre, notre dépendance aux écrans, au royaume du désenchantement numérique. Reportage de Tristan Péloquin et de François Roy. Au pays de Candy Crush et de Spotify, savoir décrocher des écrans est une obligation morale, voire l'expression d'un statut social. Après avoir embrassé sans réserve l'hyperconnectivité, les Suédois prennent un pas de recul. Titre « Résister à l'hégémonie ». Texte publié dans La Presse du 31 janvier 2026. Au risque de passer pour un homme d'âge mûr en pleine panique morale, entre guillemets, le ministre des Affaires sociales et de la Santé publique de Suède, Jacob Forssmed, a compris qu'il devait agir lorsque des hôpitaux lui ont rapporté, citation, des témoignages très troublants, fin de citation, liés à l'utilisation des téléphones par les patients. Citation, un médecin m'a expliqué que dans l'un des hôpitaux de Suède, ils ont dû retirer des berceaux de plastique dans lesquels on dépose les nouveau-nés. Les poupons restaient dans les berceaux plutôt qu'avec leur mère parce qu'elles étaient trop occupées sur les réseaux sociaux. Fin de citation, relate le ministre, un des 6 élus démocrates chrétiens, membres du gouvernement de coalition, dirigé par le premier ministre conservateur Ulf Christensen. La Suède a beau être le berceau de Minecraft, de Candy Crush, de Spotify et de la technologie Bluetooth, M. Forssmed vient de charger son agence de santé publique d'étudier ce qu'il appelle la technoférence en anglais, soit l'impact de l'utilisation des écrans par les adultes sur les enfants. Au terme de l'exercice, le pays deviendra probablement le premier d'Europe à publier des recommandations sur les temps d'écran visant spécifiquement les adultes. Citation, « Nous pouvons améliorer des choses », plaide le ministre. La Silicon Valley scandinave. Dans ce pays où le soleil se couche sur sa capitale à 14h45 en décembre, le scintillement des écrans de cellulaire est pourtant omniprésent. Les Suédois présentent leur mobile pour payer le métro, le bus et le train. L'argent comptant, refusé dans un nombre croissant de commerces, a été remplacé en grande partie par le système de paiement Swish, S-W-I-S-H. Fonctionnant uniquement avec téléphone cellulaire, qui est utilisé par 8,7 millions des 10,6 millions de Suédois. Même les boîtes postales ont pratiquement disparu, remplacées par un système entièrement numérique par 3 Suédois sur 4. Selon le rapport Swenkama och Internet, 97% des Suédois utilisent l'Internet sur une base quotidienne. Et 72% des enfants de 9 ans ont accès à leur propre téléphone intelligent. À Stockholm, souvent surnommée la Silicon Valley de l'Europe, l'hyperconnexion n'est pas près de disparaître. Mais il y a un contre-coup. La chercheuse et professeure Karin Fast, spécialiste des médias à l'Université de Karlstad, lui a donné un nom, le Digital Backlash, qui donne aussi son titre au livre qu'elle a coécrit avec une demi-douzaine de chercheurs scandinaves. Le livre s'intéresse aux micro-tactiques développées par les citoyens pour résister à l'hégémonie technologique, entre guillemets, désenchantement numérique. Ses collègues et elle soutiennent qu'un désenchantement numérique est apparu dans les sociétés ultra-connectées qu'elle appelle « société post-numérique », comme la Suède, la Norvège et le Danemark. Citation, « les Suédois font plus que se questionner au sujet de leurs habitudes numériques. Ça devient une sorte d'obligation morale de déconnecter, fin de citation, et même une façon d'afficher sa classe sociale, dit-elle. Citation, c'est comme si la technologie perdait un peu de sa magie, de sa gloire, et qu'on voit apparaître les fissures et des failles dans les attentes qu'elle crée. Fin de citation. La chercheuse Karen Fast. En périphérie de Stockholm, les retraites en nature axent leur marketing autour de la Digital Detox Pilule. La chaîne Sveriges Television, télédiffuseur public équivalent à la Société Radio-Canada ou à la BBC, a récemment diffusé un documentaire pour lequel le journaliste Eric Galli s'est départi de toute forme de connexion numérique pendant 60 jours, voire quatrième onglet, pour en étudier les effets. Et pour la première fois depuis leur apparition, l'utilisation des applications de rencontres en ligne a connu en 2025 un recul de près de 10% chez les jeunes par rapport à 2022, selon le rapport Svenska och Internet, en français les Suédois et l'Internet, réalisé par l'OBNL Internet Stephenson. Description d'une photo. Il s'agit d'une boîte comptant 6 compartiments, chacune de la forme d'un téléphone cellulaire, comportant sur une de ses faces une inscription. Légende. Sur cette boîte, baptisée « Zone sans téléphone portable », on peut lire l'inscription « Parler aux gens, c'est amusant ». Un des puissants symboles de ce contre-coup numérique est la désignation de la boîte à téléphone mobile comme « cadeau de Noël de l'année » par l'association commerciale suédoise HUI Research en 2019, affirme Karen Fast. Ces petits boîtiers de bois, aussi appelés « mobile hotel, mobile parking » ou « mobile lada » pour « maison mobile », souvent décorés d'inscriptions invitant les gens à déposer leur téléphone pour favoriser les rapprochements entre amis. Ils ont contribué, guillemets, à lancer le débat, fin des guillemets, sur l'hyperconnectivité en Suède, selon Karin Fast. Omniprésente dans les écoles. Lizzie Rowe, une pathologiste retraitée, rencontrée alors qu'elle prenait un bain d'eau glacée dans le fleuve Soderstrom, se souvient avoir fabriqué une de ces boîtes pour ses petits-enfants, qu'elle a décorée d'une croix rouge. Citation, « C'était un hôpital pour téléphone. » Fin de citation, raconte la grand-mère, mais le succès a été mitigé. Citation, « Les enfants s'en sont servis pendant 3 jours, peut-être, » dit-elle. 5 ans après leur encensement par l'Association des commerçants suédoises, ces boîtes iconiques sont toujours largement utilisées par les écoles primaires et secondaires de Suède. Nombreuses sont celles qui obligent les enfants à y déposer leur téléphone toute la journée, faute d'une interdiction nationale décrétée par le gouvernement. Kenny Kavelstrom, directeur d'une école en banlieue nord de Stockholm, estime qu'adopter ces boîtes pour contrôler les téléphones était devenu nécessaire parce que des élèves et des enseignants, citation, se sentaient mal à l'aise, fin de citation, d'être filmés par des élèves qui propageaient leur image sans leur consentement, comme une traînée de poudre sur TikTok, Snapchat et d'autres plateformes numériques. La plupart des élèves, dit-il, acceptent la règle, mais le niveau de bonheur, mesuré par l'école chaque année auprès des élèves, a chuté, reconnaît-il, citation, surtout parmi les élèves les plus vieux qui valorisent énormément leur téléphone. Fin de citation. À l'école pour élèves en situation de handicap, Scan Eriks, au centre-ville de Stockholm, la crainte que les jeunes vulnérables ne soient spécifiquement pris pour cible ou recrutés par des réseaux criminels sur des applications comme Telegram, a aussi joué dans la décision de l'école d'imposer les boîtes à portables, explique l'assistante d'enseignement spécialisée Camilla Lindelof. Citation: « Nous sommes un endroit fermé et contrôlé, mais le téléphone brise les barrières. Certains de nos élèves se sont mis dans des situations problématiques avec leur téléphone. » Fin de citation. Recul spectaculaire du gouvernement. La présence assumée des écrans dans les écoles suédoises, inscrite dans une stratégie nationale de numérisation de l'éducation, implantée à partir de 2022, faisait pourtant consensus au pays. Mais après avoir constaté une baisse du résultat des élèves dans les examens nationaux, le gouvernement suédois a fait un recul spectaculaire en février 2024, annonçant des réinvestissements massifs équivalents à 466 millions de dollars pour l'achat de livres de lecture et de manuels scolaires classiques et de 100 millions pour regarnir ses bibliothèques scolaires de romans. La numérisation à tout craint des écoles était, citation, « manifestement une grosse erreur », admet le ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Jacob Forssmed. Citation: « Nous avons introduit les médias sociaux dans les curriculums d'enfants d'âge préscolaire en leur disant qu'il fallait qu'ils utilisent ces technologies de différentes façons. Ellipse, nous sommes en train de reculer parce que c'est une distraction. » Fin de citation. Et c'est du ministre Jacob Forssmed. En octobre dernier, le ministre a piloté une rencontre réunissant des experts en santé publique de tous les pays nordiques afin d'établir des stratégies pour, citation, parvenir à une utilisation sûre et équilibrée des écrans. Fin de citation. Un expert y a comparé les stratégies de commercialisation des sociétés technologiques à celles des compagnies de tabac, des jeux de hasard et de l'alcool. La conclusion du panel scandinave? Il va falloir s'allier au reste de l'Europe pour appeler les grandes sociétés à plus de transparence et les forcer à adopter des algorithmes moins nocifs. En bon pays social-démocrate, la Suède croit que l'État a un rôle à jouer qui va au-delà des choix individuels. Citation: les entreprises vont s'adapter, croit le ministre Jacob Forssmed, et de nouveaux services, plus sains, vont émerger, j'en suis persuadé. Fin de citation. Fin de ce texte titré « Résister à l'hégémonie », signé Tristan Péloquin et François Roy, publié dans le cadre de la série des dossiers « Enquête de solutions » du journal La Presse, publié dans l'édition du 31 janvier 2026 de ce journal.
Comment arrêter de payer dans le vide? Un texte de Nicolas Bérubé, paru le 30 novembre 2025 dans La Presse. Ma collègue Marie-Ève Fournier, la semaine dernière, a écrit sur les forfaits cellulaires. Elle mettait en lumière le fait qu'on paie souvent pour des forfaits riches en données, mais qu'au bout du compte, l'utilisation était beaucoup plus restreinte que ça et que c'était de l'argent gaspillé. Pas moins de 90% de la facture de cellulaire pourrait ainsi être payée dans le vide. On pouvait y lire que des gens paient parfois 75$ pour leur forfait cellulaire. Et ça, c'est juste pour le forfait. Ajoutez-y un appareil et la facture peut dépasser les 100$ par mois avant les taxes. Je vais prendre un moment pour faire un travail sur moi-même et me ressaisir. Voilà, c'est fait. Mon avis, payer 75 ou 100 $ par mois pour le cellulaire est une dépense tout à fait légitime pour des gens qui possèdent une maison libre d'hypothèque, n'ont aucune dette et détiennent quelque part entre 5 et 10 millions de dollars en placements financiers. Si c'est votre cas, je n'ai rien à vous apprendre ici. Sinon, j'ai une excellente nouvelle. Il est facultatif de s'auto-infliger des factures élevées et de payer dans le vide dans plusieurs domaines en 2025. Pour le forfait cellulaire, le texte de Marie-Ève donnait une série d'options allant de 30 à 42 $ par mois. Pour ceux qui ont souvent accès au Wi-Fi, Public Mobile offre aussi un forfait à 5 gigaoctets à 25 $ par mois. Et pour débloquer le niveau ultime, un forfait de 1 gigaoctet est offert à 19 $ par mois. L'espèce humaine peut-elle survivre avec 1 gigaoctet ou 5 gigaoctets par mois? Ou bien c'est la fin tragique d'une expérience qui dure depuis maintenant 300 000 ans? La question est ouverte. Et n'oubliez pas, passer d'une facture mensuelle de 80 à 25 $ ne permet pas d'économiser 55 $. Ça permet d'économiser 10 000 $. C'est la somme que vous accumulerez tous les 10 ans si on calcule un rendement de 7 % sur la somme investie. Vivre dans le vide. Si j'aime pulvériser les dépenses, comme la facture de cellulaire, c'est qu'elles sont récurrentes. Et donc, on épargne constamment et surtout sans effort. Calculer ce qui part en perte est une excellente façon d'optimiser nos dépenses. Par exemple, le plus gros poste de dépense est bien sûr l'habitation. Là aussi, on dépense dans le vide, et pas à peu près. On trouvait 4 personnes par ménage au Québec dans les années 1960. On est à 2,2 personnes par ménage aujourd'hui. Donc, les maisons sont plus petites, n'est-ce pas? On connaît tous la réponse. La maison unifamiliale moyenne bâtie dans les 10 dernières années est 76 % plus grosse que celle bâtie dans les années 1960, selon une analyse de Protégez-vous. Sur les 41 pays de l'OCDE, le Canada offre le nombre le plus élevé de pièces par habitant, soit 2,6, note le magazine. Il devance ainsi la Nouvelle-Zélande et les États-Unis à 2,4. La moyenne des pays de l'OCDE est de 1,7. On est les champions du vide. Un vide auto-infligé qu'il faut meubler, chauffer, entretenir, rénover et pour lequel on paie des taxes scolaires et municipales en plus de verser des intérêts sur l'emprunt hypothécaire. OK, mais on est plus heureux quand on habite dans une grande maison, non? C'est un cas où la recherche va à l'encontre du réflexe. Comme j'en parlais dans un texte l'été dernier, les études nous montrent que le lien entre la taille d'une habitation et le bonheur est faible ou inexistant. Déplacer de l'air. Parlant de vide, celui que l'on transporte avec soi au quotidien est aussi étonnamment coûteux. À 1,2 personnes par véhicule en moyenne, nos belles grosses machines servent surtout à déplacer de l'air. Pourtant, comme pour les maisons, leur taille a explosé ces dernières années. Pour faire son calcul, Jean-Sébastien Pilote a utilisé les données du CAA et calculer l'investissement de la somme à chaque fin d'année avec un rendement de 7 %. La prochaine fois que vous verrez une Porsche 911 Turbo, ayez une petite pensée pour les 3,6 millions de dollars que son conducteur incinère afin de se forger une identité imaginaire et de consommer à la hauteur de son rang social, comme l'écrit M. Pilote. Même la voiture de mes rêves, une sémillante Toyota Corolla neuve, inflige un appauvrissement de près de 700 000 $ sur 30 ans à son propriétaire. Comprenez-moi bien. Je ne dis pas de ne jamais dépenser sur rien. Ce serait une façon triste de mener sa vie. Mais j'aime regarder en face le vrai coût des choses. Ça évite de vivre des regrets plus tard. On entend partout qu'épargner est impossible. Pour une personne qui occupe un emploi précaire, qui gagne peu d'argent, oui, je peux le concevoir. Mais pour une personne qui gagne bien sa vie, être incapable d'épargner n'est pas une condition normale ou inéluctable. C'est la conséquence de choix que l'on fait, souvent sans s'en rendre compte. Bizarrement, au cœur de ces choix, on retrouve souvent du vide. C'était « Comment arrêter de payer dans le vide », un texte de Nicolas Bérubé, paru le 30 novembre 2025 dans la presse.
Mélanie Lanouette sera l'historienne du Musée national de l'histoire du Québec. Un texte de Dave Noël, paru le 8 janvier 2026 dans Le Devoir. À 6 mois de son ouverture, le Musée national de l'histoire du Québec, MNHQ, a nommé son historienne principale. Il s'agit de Mélanie Lanouette, une spécialiste de l'histoire de l'enseignement religieux anglo-québécois au 20e siècle. Madame Lanouette était chargée de cours en archivistique à l'Université Laval et conseillère stratégique à Bibliothèque et Archives nationales du Québec au moment de son embauche. Elle avait auparavant dirigé le service de la recherche du Musée de la civilisation de Québec entre 2009 et 2016. La recrue du MNHQ n'est pas le visage le plus connu de sa profession, qui est par ailleurs de plus en plus active sur les réseaux sociaux et les nouveaux médias. « On ne voulait pas embaucher quelqu'un qui fait de l'histoire publique », explique le directeur général du musée, Maxime Penneau-Jobin. Elle ne sera pas la vulgarisatrice en chef. Cela dit, l'historienne devra parfois aller au front pour défendre les choix du MNHQ sur la place publique. Je pourrais le faire aussi parce que ces choix relèvent souvent de la direction générale, indique l'ancien maire de Gatineau, mais je serai mieux équipé avec une historienne à mes côtés. Pour l'essentiel, la mission de Mélanie Lanouette sera de structurer les actions du musée, à commencer par les comités scientifiques responsables des expositions. Son défi sera d'équilibrer les points de vue sans verser dans une histoire aseptisée. C'est pour ça qu'il faut une expertise à l'interne, lance Maxime Penneau-Jobin. On ne peut pas avoir 14 000 nuances. Quand les gens sortiront du musée, on veut qu'ils aient le goût d'en connaître plus. Née en 1974, Mélanie Lanouette a consacré sa thèse aux écoles catholiques anglo-québécoises du milieu du 20e siècle. Son mémoire de maîtrise traitait quant à lui de l'enseignement du catéchisme chez les frères des écoles chrétiennes. Elle a également suivi une formation en gestion à l'École nationale d'administration publique. Partenariat en vue. La publication d'une offre d'emploi comme historien principal du musée sur le site Jobilico avait fait grand bruit en octobre 2025. Un doctorat était exigé pour ce poste doté d'un salaire annuel de 105 000 $. Pour un historien ou une historienne, c'est probablement un des emplois les plus intéressants qui soit au Québec, avait souligné Maxime Penneau-Jobin sur sa page Facebook. L'objectif de cette embauche n'était pas d'avoir quelqu'un qui irait parler d'histoire partout sur tous les sujets. Il y a des gens qui le font déjà, précise le directeur du MNHQ. Les historiens actifs dans l'espace public seront toutefois sollicités par l'entremise de partenariats. Le musée va faire affaire à eux plutôt qu'essayer de les copier. La création du poste d'historienne principale n'était pas prévue à l'origine. Il y a assez peu de musées qui ont des gens de contenu comme ça, à l'interne. Sa fonction ne sera pas de connaître l'ensemble de l'histoire du Québec, mais d'être au fait des débats, précise M. Penneau-Jobin en soulignant que l'histoire est un champ de bataille. Mélanie Lanouette héritera d'une partie des tâches de conseiller à la direction assurée par l'historien Éric Bédard. Avec son arrivée, j'aurai quelqu'un qui va répondre à certaines questions que je lui posais. On invente une institution. Le MNHQ a multiplié les embauches au cours de la dernière année, ses effectifs passant de 3 à 57 employés. On dit toujours aux candidats en entrevue, « Si vous voulez travailler dans un environnement stable et prévisible, il faut aller ailleurs. Ici, on invente une institution. » L'échéancier est serré pour le musée d'État, qui n'avait même pas de compte en banque jusqu'à tout récemment. C'est sûr qu'on veut faire une bonne première impression, mais un musée fait partie des institutions qui précisent leur identité avec les années. Les salles d'exposition s'étendront sur 4 000 m², répartis sur les étages du pavillon Camille-Roy, qui constitue le cœur de l'ancien séminaire de Québec. Le budget de rénovation et de mise à niveau de ce bâtiment d'exception, érigé au milieu des années 1850, est passé de 92 à 105 millions de dollars en raison des imprévus et de l'inflation. La protection des œuvres à venir contre les rayons du soleil a par ailleurs nécessité la pose de parois sur plusieurs dizaines de fenêtres. C'est un édifice patrimonial qui n'est pas en condition muséale, explique son directeur. À certains endroits, on ne verra pas à l'extérieur, mais on a préservé les plus belles vues sur le fleuve Saint-Laurent et le château Frontenac. Maxime Pedneau-Jobin est à l'aise avec ce compromis architectural. Il fallait que le musée d'histoire soit dans cet édifice. « On est sur le lieu de naissance de la Nouvelle-France », s'exclame-t-il. Les fenêtres ne sont pas démolies, on pourrait éventuellement les remettre dans leur condition originale. Les écrans du musée le plus numérique du monde, pour reprendre les mots du ministre de la Culture Mathieu Lacombe, pourront être placés du côté des fenêtres baignées de lumière. Le ministre a nuancé ses propos là-dessus, insiste Maxime Pedneau-Jobin, en évoquant les artefacts qui doivent incarner la singularité de la nation québécoise. C'est stimulant de construire une institution comme celle-là, lance le directeur du MNHQ. Comment parler d'une nation en 2026? Toutes les nations se posent cette question-là, et on va tenter de trouver une réponse québécoise dans un contexte où l'individualisme règne en maître. Le MNHQ est le 4e musée national québécois après le Musée national des beaux-arts du Québec, 1933, le Musée d'art contemporain de Montréal, 1964, et le Musée de la civilisation, 1988. C'était Mélanie Lanouette sera l'historienne du Musée national de l'histoire du Québec. Un texte de Dave Noël paru le 8 janvier 2026 dans Le Devoir.